Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne avec moi aujourd'hui en studio, Jérôme Boissel, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors Jérôme Boissel, vous êtes invité dans cette émission dans le cadre du partenariat avec la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire, puisque vous êtes doctorant au laboratoire Valorem. Alors avant de détailler de quoi il s'agit, je dis bonjour à mon co-animateur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez reconnu, chers auditeurs, sûrement la voix de Philippe, qui est animateur de l'émission On se porte pas plus mal. Et alors, Philippe, si tu es ici avec moi dans cette émission, c'est parce que on va parler de sport, et donc il me semblait important d'avoir un spécialiste avec moi pour interviewer Jérôme Boissel. Alors, tout d'abord, Jérôme Boissel, doctorant en sciences de gestion, spécialité marketing, Val-de-Loire Recherche en Management, Valorem. Alors, est-ce que vous voulez tout d'abord nous présenter votre parcours professionnel et nous expliquer vos missions actuelles, en fait? En quoi ça consiste d'être chercheur chez Valorem? Qu'est-ce que vous y faites?
Alors, bonjour à tous. Alors, parcours professionnel, il va être en deux étapes. Moi, j'ai 40 ans, donc j'ai un parcours professionnel dans l'industrie du sport à la base. J'ai travaillé dans quelques clubs professionnels, à la fois en Angleterre et en France. La recherche, je suis dedans depuis 2012, donc à la fin de ma première carrière pro. Et je suis doctorant, si je ne me trompe pas, depuis l'année 2014-2015. J'ai été à terre, donc assistant temporaire d'enseignement et de recherche à l'IAE Tours pendant 3 ans. Mon contrat s'est terminé en août dernier, et depuis la rentrée, donc je suis enseignant à La Rochelle, à Excelia Group Subdeco La Rochelle ou La Rochelle Business School, et donc je suis enseignant à plein temps en marketing. En ce qui concerne le laboratoire Valorem, c'est un laboratoire effectivement en sciences de gestion qui réunit à la fois les IAE de Tours, l'IUT de Tours, l'IAE d'Orléans et l'IUT également du côté du Cher. Quelles sont les responsabilités? En tant que doctorant, pas véritablement de responsabilité, si ce n'est un contrat de recherche. Donc tous mes travaux de recherche sont sous le numéro de laboratoire et se font en partenariat avec des chercheurs plus aguerris du laboratoire. On se réunit de manière régulière, donc quand je suis à La Rochelle, ça se fait en visio. J'ai une réunion qui est prévue à la rentrée le jeudi 9 janvier. Et donc on travaille sur des concepts en sciences de gestion et plus particulièrement en marketing, dans l'axe marketing auquel j'appartiens.
Est-ce que vous voulez nous dire comment on passe d'un parcours de professionnel à un parcours de chercheur? Quel est le pivot, en fait, l'axe qui fait passer de l'un à l'autre?
Alors, il n'y a pas de pivot en tant que tel. En tout cas, moi, je peux parler de mon cas personnel, mais on entend souvent les doctorants qui disent « j'ai un parcours atypique ». Et en fait, je me rends compte qu'on a tous un parcours atypique, ce qui fait que le parcours atypique, il est complètement typique. Moi, je travaillais au Tour FC, à la direction commerciale du Tour FC. L'expérience est très, très mal terminée. Je venais d'avoir 30 ans et à la manière Sarkozy, un jour en me rasant, je me suis dit « est-ce que c'est ce que je veux faire toute ma vie ?» quoi. Et très clairement, la réponse était non. Par contre, la chance que j'ai eue quand je travaillais dans différents clubs, c'était d'intervenir auprès d'étudiants, soit sur des cas, des études de cas ou au contraire des témoignages directement en face des élèves. Et ce qui m'intéressait, c'était la transmission. Et à partir de là, je me suis dit l'enseignement, c'est peut-être une voie que je devrais exploiter. En revanche, ma compagne est professeure en secondaire et c'est un métier complètement différent. Moi, je ne pourrais pas enseigner ni en primaire, ni en collège, ni en lycée. Donc l'intérêt, c'était vraiment cette transmission auprès de jeunes adultes. Et quelque part, la seule manière pérenne d'être professeur auprès de jeunes adultes, c'était par le biais du doctorat et de devenir enseignant-chercheur.
Juste, pourquoi le sport en particulier? Parce que c'est vrai que en marketing, on va plus parler des entreprises, de choses comme ça, et là, c'est vraiment spécifique au sport, donc c'est...
Oui, alors, Là, je vais tout de suite lever le bouclier, j'ai envie de dire, mais je suis souvent placardisé, ou en tout cas, on me traite souvent de marketeur sportif ou de spécialiste du marketing du sport. Je suis doctorant en marketing. Et en fait, mon terrain de jeu, sans mauvais jeu de mots, c'est effectivement le marketing du sport ou le sport professionnel. Ceci étant, je pourrais très bien être enseignant-chercheur ou doctorant en double vitrage, en cinéma, en culturel, en visite muséale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler en particulier sur le comportement du consommateur, donc qui est une vraie branche du marketing, donc pas du côté de l'offre, mais du côté de la demande. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement du consommateur, et j'ai choisi des concepts qui me sont très chers de manière très personnelle, c'est-à-dire la proximité, l'attachement et la valeur perçue. Il se trouve que j'ai peut-être été victime ou au contraire coupable de l'opportunisme du chercheur. J'avais mes entrées dans l'industrie du sport, et effectivement, c'est peut-être plus facile, et on verra peut-être tout à l'heure que ce n'était pas forcément le cas, de trouver un terrain dans l'industrie du sport. Ceci étant, ce qui est vraiment intéressant, et ce pourquoi je me bats quasiment quotidiennement, c'est que les résultats que j'essaye d'avoir et que j'espère avoir dans les prochaines semaines puissent être transposés à d'autres industries. En fait, mon cas, c'est quelles sont les répercussions sur les spectateurs d'un déménagement d'un stade vers un autre stade. Mais en fait, on peut très bien se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand on ferme un bureau de poste et que l'usager doit aller dans le bureau de poste de la ville voisine. Qu'est-ce qui se passe quand la clinique qui était en face de la cathédrale Saint-Gatien déménage vers l'Alliance? Certains patients sont attachés au personnel médical, au lieu en lui-même, et quelque part, on peut peut-être provoquer un traumatisme en changeant de quelques kilomètres l'emplacement d'un endroit. Donc moi, je me base sur le cas du Racing 92, mais j'espère plus tard pouvoir adapter mon modèle à des entreprises ou à des industries qui sont peut-être plus mainstream, qui parlent peut-être à plus de gens que les seuls spectateurs ou supporters de sport.
D'accord. Il y a toujours un espèce de lien finalement entre le déménagement d'un club d'un stade à un autre ou d'une administration dans un autre endroit. C'est vrai que ça peut provoquer. Il y aura un nouveau public qui va venir, mais peut-être le public un peu plus historique ne viendra peut-être plus pour des questions de distance.
Tout à fait, le public peut se sentir plus aliéné, ou au contraire peut se sentir peut-être délaissé par le club ou par l'institution. Après, est-ce que c'est transposable ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que ça peut être intéressant dans quelques années ou dans quelques mois d'essayer de dupliquer ou d'adapter le modèle que j'aurais trouvé à un autre cas, dans une autre industrie ou un autre secteur.
D'accord.
Alors moi, je m'interroge, Jérôme Boissel, sur les spécificités du produit sport, parce qu'en fait, vous nous dites que votre travail, votre recherche est sûrement adaptable, enfin, en tout cas qu'on pourra en tirer des conclusions, des leçons intéressantes pour d'autres secteurs. Est-ce que vous voudriez nous dire un peu quelles sont les spécificités de ce produit sport ?
Oui, alors ça fait l'objet de pas mal de modules de sport. Il me semble que généralement, quand j'enseigne ça à mes étudiants, j'essaie de mettre en lumière trois spécificités qui sont plus ou moins liées les unes aux autres. Premièrement, il me semble que je parle beaucoup de la glorieuse incertitude de résultat, qui est un mythe, c'est-à-dire que normalement, quand on va voir un match de sport, normalement, je précise bien, hors doping, hors etc., on ne connaît pas l'issue. Alors, est-ce que c'est une spécificité du sport ou pas? Je pense que quand Coca lance un produit, ils ne savent pas non plus l'issue de ce lancement de produit. Toujours est-il qu'on met toujours en avant cette glorieuse incertitude du résultat. La deuxième chose qui revient au dernier commentaire ou la dernière question de Philippe, ce qui est peut-être difficilement transposable ou qui fait que le cas du Racing ou d'un club de sport qui déménage est si particulier, c'est le niveau d'attachement que les supporters et les spectateurs peuvent avoir envers leur club. Effectivement, on peut se sentir proche d'un bureau de poste ou attaché à un bureau de poste, mais comme le disait Rogan Taylor il y a une vingtaine d'années, on n'a jamais vu quelqu'un aller à Carrefour avec une écharpe Carrefour en criant « Allez Carrefour dans les allées ». Par contre, quand on va dans un stade, on a ce phénomène de loyauté et d'allégeance. Ceci étant, ce phénomène de loyauté et d'allégeance qu'on a mis en lumière dans les années 70-80 en sociologie anglo-saxonne, premièrement, elle n'a jamais vraiment été démontrée en France, malgré les efforts de certains sociologues sociologues et même philosophes français. Et puis, j'ai l'impression qu'elle se perd petit à petit. Aujourd'hui, avec les télés câblées, les télés satellites, le phénomène global, c'est compliqué d'être attaché au Tour FC quand on peut voir plus souvent à la télé Liverpool, Manchester United ou l'Atlético Madrid que le Tour FC. Donc là, encore une fois, c'est peut-être la spécificité numéro 1. Et puis la troisième qui m'échappe maintenant, mais ça me reviendra sans doute plus tard. Oui, ça me reviendra. Oui, ça me reviendra.
La glorieuse incertitude du résultat, pardon, le niveau d'attachement envers quelque chose et l'idée de loyauté, d'allégeance, ça peut faire penser aussi au service public, après tout. Cette idée de la glorieuse incertitude du résultat, c'est le cas dans le domaine de la santé. Quand les gens viennent se faire soigner, on n'est pas sûr qu'ils vont sortir guéris.
Ouais, tout à fait.
Voilà le niveau d'attachement envers le service public. Je pense que vu les événements, les manifestations qui ont lieu en ce moment, on voit qu'il est réel. Donc là, est-ce que vous pensez en fait que vos travaux pourraient aussi, peut-être que c'est évidemment pas votre but, mais que ça peut aussi intéresser des personnes qui cherchent à défendre le service public.
Totalement. Alors, c'est peut-être parce qu'on est une radio asso et qu'il y a un angle de ce côté-là, mais j'ai pas la prétention de vouloir transposer mon modèle, etc. C'est en toute humilité, mais effectivement, si je pouvais, ne serait-ce qu'aider à un moment ou à un autre la recherche sur d'autres secteurs d'activité, et notamment dans le cadre public, ça pourrait effectivement m'intéresser. Pour rebondir sur la santé, le laboratoire Valorem se spécialise en ce moment même sur le marketing de la santé, sur des concepts comme l'empowerment. Donc donner un petit peu le pouvoir aux usagers, aux patients, pour qu'ils puissent participer, co-créer la valeur dans tout ce qui va être la médication, le suivi du patient, etc., etc. Et effectivement, avec le contexte actuel des grèves, également la remise en cause peut-être de certaines institutions publiques, on pourrait effectivement travailler sur les concepts de valeur perçue. Du secteur public, de proximité du secteur public et de l'attachement du secteur public, effectivement, oui.
Donc on est un petit peu de le patient, pour reprendre sur le truc médical, sur le domaine médical, il devient sociétaire finalement. Il a un droit de regard sur les lignes de conduite de l'hôpital, de la clinique ou quelque chose comme ça.
Totalement. Et quand on commence à réfléchir en fait sur la remise en cause du système médical français, et si on oublie les sites internet comme Doctissimo où on apprend au bout de 5 minutes qu'on va mourir de n'importe quelle maladie, effectivement le patient aujourd'hui a un réel désir de mieux comprendre ce qui lui arrive, de mieux comprendre comment il peut se soigner et de devenir un véritable acteur de sa maladie et de sa médication. Donc effectivement, on est en plein dans nous ce qu'on appelle vulgairement l'empowerment, mais c'est hyper important sur le secteur de la santé à l'heure actuelle et sans doute pour d'autres secteurs d'activité, oui.
Mais alors, pardon, hein, c'est pas le sujet premier de cette émission, cependant c'est très intéressant. Cette idée de la santé, parce que l'empowerment, j'entends bien, pour les patients qui veulent savoir qu'est-ce qu'on va leur faire, comment ils vont être traités et pourquoi. Mais peut-être qu'il serait aussi question d'empowerment du côté des personnels paramédicaux, parce que c'est vrai que ça tend à disparaître, mais cette idée de rapport pyramidal avec le médecin tout-puissant qui fait on ne sait trop quoi ni pourquoi parfois, c'est l'image que ça peut donner, et des fois des soignants qui se trouvent pris en étau parce qu'ils ne savent pas quelle réponse donner aux patients.
Ouais, alors effectivement, je vous rejoins, c'est pas forcément le sujet dont je suis où je suis le plus performant. En revanche, on peut se poser la question en fait de réinventer le métier, réinventer le système déjà, le système bureaucratique à la Max Weber, mais également réinventer les métiers d'accompagnant, d'aide-soignant, etc., etc. Je suis d'accord avec vous.
Peut-être que pour recentrer notre discussion sur le thème, voilà, du rugby à 15, je vous propose de faire une première pause musicale. C'est une musique que vous aviez choisie, Jérôme Boissel. Alors, hymne non officiel de l'équipe de rugby d'Angleterre. Mon anglais étant indigent, je vous laisse annoncer à nos auditeurs comment ça s'appelle.
J'imagine que c'est le Swing Low Sweet Chariot.
Voilà, c'est ça. Donc, fantastique. Merci pour cette annonce et on se retrouve tout de suite après dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Nous écoutions l'hymne non officiel de l'équipe de rugby d'Angleterre. Alors, Jérôme Boissel, pourquoi vous avez eu envie de faire écouter cette musique à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Alors, en fait, cette musique, elle a deux histoires, en fait. La première histoire, elle est personnelle. C'est une musique que m'a appris un intervenant en anglais quand j'étais au lycée, John Baker, qui vit encore à Clermont-Ferrand, mais qui est originaire de Newcastle à la base. Et en fait, il nous l'avait fait écouter en cours, pas pour la valeur symbolique, rugbystique, même si c'est un fan du rugby ou quoi que ce soit. C'était pour nous enseigner le double langage en linguistique. Puisqu'en fait, quand les supporters la chantent, il y a le côté très sacré, religieux, etc., qu'on peut retrouver en sport, mais également quelques gestes obscènes qui peuvent accompagner les paroles, notamment dans le cadre du rugby. Donc quand les Anglais chantent cette chanson, notamment contre la France, il y a des petits gestes qui trompent pas. Et généralement, on sait que c'est un temps fort de l'Angleterre, sinon une victoire assurée de l'Angleterre. Donc ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est le côté beaucoup plus historique et presque quasi religieux. En fait, cet hymne ou cette chanson est devenue l'hymne non officiel dans la saison 87-88, donc on devait être en février ou mars 88. La légende dit en fait que l'Angleterre qui traversait une très mauvaise passe en rugby à l'époque, je crois qu'ils avaient gagné que 13 matchs sur 35 dans le tournoi des 5 nations, ils jouaient contre l'Irlande à Twickenham ce jour-là. À la mi-temps, il y a 3-0 pour l'Irlande. Il y a quelques supporters qui en deuxième mi-temps ont commencé à chanter cette chanson. C'était des étudiants d'une école bénédictine et c'était en fait l'hymne de leur école et de leur équipe de rugby. La légende a fait que l'Angleterre a gagné le match 35-3. Et la petite histoire dans la grande histoire, c'est que un des joueurs anglais qui a marqué 3 essais était noir, ou est toujours noir d'ailleurs, mais que cette hymne, ou en tout cas cette chanson, a été critiquée pendant très longtemps, et la question s'est posée: est-ce que c'était en fait une chanson utilisée de manière un peu raciste pour se moquer de ce joueur-là, ou au contraire, est-ce que c'était vraiment pour motiver les joueurs et pour pousser l'équipe d'Angleterre? En tout cas, c'est devenu l'hymne non officiel, et c'est vrai que... Ceux qui me connaissent vont doucement rigoler, mais j'adore entendre cette hymne, cette chanson quand l'Angleterre joue, parce que je supporte l'Angleterre. Donc forcément, c'est toujours bon signe pour moi.
Ça va être compliqué, les France-Angleterre, avec vos collègues, ou parce qu'on connaît le grand amour entre les Français et les Anglais en rugby.
Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai vécu en Angleterre. J'ai quitté la France à peu près à l'âge de 20 ans pour vivre en Angleterre pendant quasiment 8 ou 9 ans. Je suis parti, j'étais un ado, je suis revenu, j'étais un adulte. Donc voilà, mon choix s'est porté vers l'Angleterre. Pareil pour le foot, pareil pour l'Angleterre, pour le rugby. C'était plus compliqué il y a quelques années parce que, ayant travaillé aux Sharks en Angleterre, j'étais collègue avec des joueurs français. Donc c'est vrai que je voyais des collègues sur le terrain et je supportais l'équipe d'Angleterre. C'est toujours un peu compliqué ces matchs-là, surtout à la maison. Mais voilà, c'est comme ça. On choisit sa famille, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis. J'ai choisi le pays que je supporte.
Alors j'aimerais qu'on revienne aussi sur le rugby à 15 pour nos empêchés sportifs qui nous écouteraient, voilà, qui n'y connaîtraient rien. Alors est-ce que vous voulez, Jérôme Boissel, rappeler d'où vient ce sport et en quoi il consiste?
Alors, je suis pas un historien du sport, hein, mais comme beaucoup de sports, le rugby à 15 vient en tout cas la légende ou l'histoire dit que ça vient de l'Angleterre post-révolution industrielle. De manière un peu plus scientifique, le foot est apparu ou a été codifié plutôt en 1863. Une des règles du foot est d'empêcher le plaquage. Et également les coups de pied dans les tibias. À partir de là, il y a une scission entre deux formes de sport, donc le football tel qu'on le connaît, le football à 11 qui a été codifié en 1863, et le rugby. Ceci étant, le rugby n'a pas été codifié en tant que tel en 1863, puisqu'il y a eu une seconde scission à l'intérieur du rugby entre le rugby à 13, ou plutôt le jeu à 13, donc 13 joueurs avec des règles très très simples qui ont peut-être influencé le football américain, c'est-à-dire 4 possessions de balles. Pour aller marquer un essai, si on ne marque pas, on rend la possession à l'adversaire. Ça rappelle un peu les règles du football américain. Et le rugby à 15, avec des règles beaucoup plus complexes, qui se joue à 15 joueurs, passe en arrière comme le rugby à 13, et où le but du jeu est de marquer le plus de points que l'adversaire en essayant d'aplatir la balle dans l'en-but adverse. Il y a une citation, en tout cas un dicton anglais qui dit que il n'y a que 4 règles en rugby à 13. Au total, c'est-à-dire 4 possessions de balles pour aller marquer, alors qu'il y a plus de 4 règles, ne serait-ce qu'au coup d'envoi du rugby à 15. La principale différence entre le rugby à 15, le rugby à 13 et le football, c'est que de manière historique, le football s'est adressé aux classes relativement prolétaires. Donc on est dans l'Angleterre de la seconde moitié des années 1800, donc seconde moitié du 19e siècle. Le rugby à 13 avait à peu près ces mêmes velléités, mais était très cantonné. À la zone nord-ouest de l'Angleterre, donc qui partait grosso modo de Sainte-Hélène, Liverpool, jusqu'à Leeds. Et le rugby à 15 était par contre le sport, non pas de la noblesse, mais en tout cas de la belle bourgeoisie. Un dicton populaire appelle également le rugby à 15 un sport pour les hooligans joué par des gentlemen.
Alors que le football, c'est totalement le contraire, c'est un sport de gentleman joué par des hooligans, selon le dicton aussi. Après, je vais pas me mettre tous les supporters de foot à dos.
On vient de perdre la moitié de l'audience. Ouais,
c'est ça.
Mais non, bien sûr que non. Mais alors aussi, je voudrais savoir quelle est la place du rugby en France, parce que c'est un sport d'importation, si on peut dire. Donc du coup, comment il...
Oui, alors comme beaucoup de sports, hein, c'est un sport qui a été importé, hein, que ce soit le foot, le basket, le hand qui nous vient d'Allemagne, ou le rugby, c'est un sport d'importation. C'est un sport, le rugby à 15, qui a longtemps été cantonné à deux choses. Premièrement, une prison géographique, c'est-à-dire le sud-ouest de la France, avec des clubs comme Colomiers, Toulouse, etc. Enfin, on pense à Lourdes qui a gagné le championnat, on pense à des clubs dans le Bigorre, etc. Donc premièrement le sud-ouest,
oui.
Et puis petit à petit, à mesure que le sport a conquis la planète, il a également conquis le territoire français, deuxième prison auquel il a été cantonné, ça a été longtemps un sport de clocher, c'est-à-dire c'était un sport de sous-préfecture.
Oui.
Depuis la professionnalisation du rugby à 15 dans le milieu des années 90, si je me trompe pas, c'était 95, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour supporter ou pour pouvoir soutenir et accueillir un club professionnel de top 14, voire même de Pro D2, il faut une agglomération suffisamment importante. Et aujourd'hui, on voit des sous-préfectures dont les clubs disparaissent. Et je parle quand même, sans parler de sous-préfecture, mais je parle de clubs très importants. Hein. Lourdes a quasiment disparu. Périgueux vivote en Fédéral 3 ou Fédéral 2. Biarritz va sans doute mourir en fin de saison. Biarritz était en Coupe d'Europe il y a encore quelques années. Et à côté de ça, on a vu l'émergence de grandes agglos. Alors évidemment, il y a des mastodontes, hein, comme Toulouse et comme Clermont, mais le Loup à Lyon, il y a une grosse histoire du rugby autour de Lyon, mais pas forcément un grand club dans Lyon. Et quelque part, le Loup, le Lyon olympique universitaire, a contribué à la disparition de Bourgoin, qui est une véritable place forte. Je pense à Bordeaux. Alors Bordeaux a une histoire locale avec Bègles. Seulement Bègles, c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit village en périphérie de Bordeaux. Et le seul moyen de survie de Bègles a été de fusionner, non sans mal, avec, avec la Cube, et de créer l'union Bègles-Bordeaux. Et l'accent aujourd'hui, vraiment, même sur le logo, est porté sur Bordeaux et non plus sur Bègles. Le damier bleu et blanc a disparu depuis le changement de stade de Moga vers Lescure. Et en fait, aujourd'hui, bon, bah, l'UBB est leader du top 14, mais simplement parce qu'il a fallu transposer ou transférer le club de Bègles vers Bordeaux. Il y a plein d'autres exemples.
On a aussi eu, on l'entend souvent dans le monde du rugby, des idées de fusion. Il y avait eu, par exemple, maintenant ça doit être presque 20 ans, Tarbes qui voulait s'associer avec la section paloise. Il y avait bah, là le Racing 92 avec le Stade français, Bayonne avec Biarritz. Et finalement, ça se fait pas parce que ça reste toujours, comme vous l'avez dit, un truc de clocher. Quoi. C'est un sport de clocher. Donc chacun défend un petit peu son.
Ouais. Alors il y a plein d'éléments. Mais premièrement, effectivement, on peut pas fusionner deux clochers qui sont détestés pendant des siècles. Deuxièmement, pour qu'une fusion marche, et là on pourrait sans doute trouver des références bibliographiques là-dessus, mais pour qu'une fusion marche, il faut la faire quand les deux clubs ou les deux entités sont au plus haut. Et en l'occurrence, la fusion entre Biarritz et Bayonne, c'était quelque part pour sauver les deux ou pour éviter qu'il y en ait un
qui disparaisse. Ouais.
Ouais, et finalement, c'était pour la mauvaise raison. Et puis la troisième raison également qui peut expliquer que ça marche pas, c'est tout simplement la guerre d'ego. Moi, je suis en sciences de gestion, je suis très intéressé par la stratégie. La fusion Stade Français Racing ne s'est pas faite, entre autres, parce qu'il y avait une guerre d'ego entre les différents présidents, les différentes parties prenantes, et quand bien même c'eût été une très bonne idée, et je suis pas forcément d'accord avec ça, quand bien même c'eût été une très bonne idée, les hommes n'auraient pas pu être compatibles. Ce qui me permet de revenir au trou de mémoire que j'ai eu plus tôt, le troisième phénomène, c'est le phénomène de collusion, justement, en marketing sportif, c'est-à-dire qu'on est à la fois adversaire sur le terrain, mais on est également partenaire sur plein de choses, ne serait-ce que les calendriers, s'entendre sur les dates à laquelle auront lieu les matchs, s'entendre sur les lois du jeu, s'entendre sur les règles de transfert. On est en plein dedans entre la FFR entre la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby, c'est-à-dire comment va-t-on dédommager les clubs pour prendre 42 joueurs susceptibles de jouer en équipe de France quand jusqu'à présent on n'en prenait que 30. Ouais. Donc ils ont trouvé la solution, on leur enlève des jours de congés payés, avec l'aval des joueurs. En tout cas, ils n'ont pas eu le choix. Donc voilà, le troisième phénomène, c'est la collusion. Et en l'occurrence, la collusion, on ne l'a pas trouvée entre le Racing 92 et le Stade Français. Très clairement.
Aussi, quand on voit les entités propres, le Stade Français sur les 20 dernières années, parce qu'on va compter, on est presque en 2020, c'était un peu le club un peu à la cool, un peu jeune, un peu rock'n'roll. Et puis le Racing, bah, ça faisait un petit peu le club... entre guillemets, de papy, quoi.
Ouais, alors c'est marrant, j'avais pas forcément réfléchi de cette manière, mais effectivement, par rapport à la présentation du rugby que j'ai faite, le Stade Français a incarné pendant quelques années le passage au professionnalisme, avec du sport events, avec Gazzini qui nous mettait des pom-pom girls, un ballon qui arrive sur un char, etc., un char romain. Donc on était vraiment à l'avènement du sport business, mais ce qui me fait un peu doucement rigoler, premièrement parce que je déteste le Stade Français, mais également parce que j'ai travaillé avec lui, c'est Philippe Saint-André qui disait « Le Stade Français est le seul club au monde à attirer 80 000 personnes un samedi et 5 000 personnes le samedi suivant. »
Oui.
Parce qu'il jouait les gros matchs au Stade de France devant 80 000 personnes. Avec des prix à 5 euros.
Des prix à 5 euros.
Et le week-end suivant, il jouait à Jean-Bouin devant les 5000 aficionados. Ouais. En phase 2, effectivement, on a le vieux club de gentlemen. Ouais. Alors, je dis pas ça parce que j'adore le Racing.
Non, mais ils ont toujours eu cette image. Ils avaient
le papillon de la finale des années 80 ou 90. Je me souviens plutôt contre Béziers, je crois.
Oui.
Où ils sont arrivés, et ce qui a créé la marque Eden Park, si on a le droit de citer une marque Eden Park, on va citer Rick Lewis et Lévis à côté, mais Eden Park, où effectivement ils ont joué la finale, ils sont rentrés sur le terrain avec le nœud papillon, et ils ont bu le champagne à la mi-temps. D'ailleurs, ils l'ont refait en finale à Barcelone, si je ne me trompe pas, Non, c'était en Coupe d'Europe.
En Coupe d'Europe.
Où ils sont rentrés avec le béret français
estampillé. Le béret français estampillé, ouais.
Alors moi, j'ai une question sur le sport universitaire, parce que malgré tout, nous sommes Radio Campus Tours, donc nous sommes la radio étudiante. Et j'aimerais savoir, parce que vous en avez cité une tout à l'heure, d'équipe de rugby universitaire, j'aimerais savoir quelle est la place du rugby universitaire, et est-ce que le sport universitaire pèse, entre guillemets, à une échelle nationale ?
Alors là, je suis vraiment pas qualifié, il aurait fallu inviter Romain du SUAPS. alors pour être honnête, les seuls éléments que de réponse que je peux vous donner, c'est que hormis le nom, le loup n'a plus rien d'universitaire.
On nous ment.
On nous aurait menti. Voilà, il est originaire, effectivement, comme le PUC à une époque, Paris Université Club est originaire ou trouve ses origines dans l'équipe universitaire, comme d'ailleurs pas mal de clubs de rugby.
Bah, Bordeaux, c'était le Stade Bordelais Université
c'est
Club,
ça, ouais.
Le SMUC.
Mais aujourd'hui, c'est une SASP, donc une société anonyme à objet sportif ou à raison de sport professionnel. En ce qui concerne le rugby universitaire, il a encore une place importante. Si je devais le comparer au foot, le foot universitaire, à ma connaissance, n'existe quasiment pas. En revanche, on a un tournoi destination universitaire et il me semble qu'il y a même des rencontres intercontinentales universitaires.
Il y a un genre de Coupe du Monde universitaire.
C'est ça. Et il y a un championnat de France universitaire et même inter-école de commerce, orienté rugby, qui vaut son pesant d'or avec des beaux noms, des futurs pros, voire même des pros à l'heure actuelle.
Parce que le rugby aussi fait partie de ces quelques sports qui mettent énormément en avant, déjà dans la formation, le fait de être aussi bon dans les études,
ouais.
Parce qu'une mauvaise blessure, ça peut arriver, et qu'est-ce que tu fais après, quoi.
Alors, avec un tout petit bémol, c'est historiquement, effectivement, le rugby a longtemps été très lié à l'université, premièrement parce qu'il y avait un côté gentleman, bourgeois, etc., donc effectivement, on avait des joueurs de rugby qui étaient éduqués, également parce que pendant très longtemps, jusqu'en 95, le rugby était amateur, donc les joueurs se devaient d'être formés, se devaient d'aller à l'école, et beaucoup d'entre eux ont fini kiné.
Oui.
Y a beaucoup dans le secteur médical. D'autres ont fini en brasserie, mais pourquoi pas, les footballeurs également. Le problème, c'est qu'avec l'avènement du rugby pro, on a eu un petit passage à vide. Il y a une génération qui est passée au travers, en fait, où on a commencé à prendre des enfants à la sortie de l'école, voire même au lycée, pour les élever au professionnalisme. Et malheureusement, cette génération-là, donc c'est la génération qui arrive aujourd'hui plus ou moins à terme, n'a pas forcément l'éducation de leurs aînés. En revanche, le rugby apprend très vite, notamment des erreurs du football, et aujourd'hui les clubs signent de plus en plus de conventions avec les universités, les écoles de commerce de leur territoire.
Ouais.
Je prends l'exemple de Excelia Group à La Rochelle, on vient de signer un partenariat avec le Stade Rochelet, basket et rugby, pour prendre leurs joueurs dans nos formations. On a le cas à l'ESC Clermont également. L'ESC Clermont a un partenariat avec le Clermont Foot, l'ASM Clermont Rugby, mais également tous les sports avec des sportifs de haut niveau. Je pense aux perchistes, je crois qu'il y a des patineurs et également des athlètes. Et il me semble qu'il y a une sportive dans le sport équestre, mais je ne pourrais pas vous dire exactement dans quelle discipline du sport équestre. Ces jeunes-là ont signé, ont signé une convention avec l'école de commerce. Donc on comprend enfin que l'adage « un esprit sain dans un corps sain » n'est pas galvaudé.
Alors j'en profite donc pour faire une doléance à notre équipe sportive. Peut-être que vous pourriez vous pencher sur le sport universitaire. Si le sujet vous semblait pertinent.
Ça pourrait être, on a deux, trois pistes justement. Il y a le sport féminin qui est également un grand axe qu'on aimerait bien comprendre et développer. Et le sport universitaire, c'est vrai qu'on en parle peu et ce serait intéressant de... Enfin, je soumettre l'idée à mes chers confrères de l'émission « On se porte pas plus mal ».
Pardon, il y a des très beaux exemples en Touraine, donc il y a Romain qui travaille au SUAPS qui peut vous aider là-dessus, mais je pense notamment, il y a une ancienne pro du CTHB qui a pris sa retraite cette année, qui pendant qu'elle était pro au CTHB a été étudiante en droit à Tours, si je ne me trompe pas, et aujourd'hui elle plaide au barreau. Donc c'est plutôt pas mal, sportif de très haut niveau.
Ouais.
Et puis il y a des conventions, alors je ne sais plus qui s'occupe des conventions à l'université de Tours, mais il y a des conventions sportives de haut niveau.
D'accord.
À la fac de Tours, et il y a beaucoup de filles, notamment du CTHB, qui sont passées par l'IUT, qui sont passées par l'IAE, et il y a vraiment une filière sportive de haut niveau à l'université, et pas que dans les écoles de commerce. Ouais.
Ça sera justement un bon truc de faire ça sur le terrain, ça nous entraînera. Et puis, ça pourrait être super intéressant de voir ce que l'université de Tours... apporte aussi aux sportifs de haut niveau, parce qu'il y a quand même de très bons sportifs à Tours.
Champagne, j'ai même pas besoin d'insister. Alors, je propose de faire une seconde pause musicale et nous allons écouter Oasis, Jérôme Boissel. Pourquoi vous nous avez proposé d'écouter ça sur Radio Campus Tours ?
Déjà, je suis soulagé. Hein, s'il y a deux pauses musicales, j'échappe à Shakira.
Patience, ça peut encore venir.
Que ma fille avait soumis et que j'aurais souhaité éviter. Bonjour Scarlett. Non, pourquoi Oasis ? Oh, pour plein de raisons. J'ai vécu pendant très longtemps à Manchester. Donc, quand on vit à Manchester, on est forcément un fan d'Oasis. Ce sont des grands fans de Manchester City. Le club pour lequel j'ai travaillé, et il y a une vidéo qui circule sur internet lors du dernier sacre de City en championnat d'Angleterre. L'un des deux frères, je crois que c'est Noël hein, si je me trompe pas, a chanté en direct dans les vestiaires avec les joueurs de City. Il a chanté Wonderwall, donc c'est plutôt pas mal. Et je crois que la chanson a été reprise par les joueurs il y a 15 jours. Ils ont été accueillis dans un club de 3e ou 4e division en Coupe d'Angleterre, et il y a eu une coupure de courant, et ils ont mis Wonderwall sur leur MP3. Et ils ont chanté Wonderwall dans les vestiaires noirs, et cette vidéo fait le tour du monde des réseaux sociaux. Voilà, pour moi, c'est beaucoup de nostalgie, c'est Manchester, et puis voilà. Et j'ai vu Noël en concert il y a quelques mois, au mois de juin, en juin dernier, donc c'est tout plein de bons souvenirs.
Voilà, donc tout plein de bons souvenirs dans la Méridienne sur Radio Campus Tours, en écoutant Oasis. On se retrouve tout de suite après.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. About you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. I said maybe
Oasis sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne. Avec moi en studio, Jérôme Boissel et Philippe de l'émission On se porte pas plus mal. Alors, peut-être que vous voulez, Jérôme Boissel, rappeler une dernière fois à nos auditeurs quel est le sujet de votre thèse.
Oui, donc je travaille sur les implications d'un changement de stade, d'un déménagement de stade, sur la perception qu'ont les spectateurs du club de la proximité, de l'attachement et de la valeur perçue à la fois du club, du stade et du spectacle sportif.
Alors, quelle est la méthode employée pour mener à bien votre recherche? Comment vous faites? Est-ce que vous procédez à des entretiens? Est-ce que vous avez fait des enquêtes de terrain?
Alors, la méthodologie est très typique du marketing, donc d'un point de vue épistémologique, c'est ce qu'on appelle une méthodo ou en tout cas un positionnement positiviste. C'est-à-dire que je pars de mon mémoire de recherche que j'ai fait en 2012 à l'IE Tours, où j'avais mené des entretiens qualitatifs auprès de spectateurs, de professionnels, etc. Donc première étape qualitative d'entretien, suivie d'une logique hypothético-déductive, c'est-à-dire que cette étape qualitative est suivie de questionnaires, d'une étude quantitative qui vise à mesurer non seulement la véracité de ce qu'on a plus ou moins vu dans la démarche quali, mais également mesurer le poids de chaque concept sur les autres concepts. Ce qui fait peut-être l'originalité de mon travail, c'est que quand on travaille entre autres sur l'attachement, on se rend compte que bien souvent, les chercheurs en psychologie, mais également en sciences de gestion, et encore plus particulièrement en marketing, utilisent proximité et attachement comme synonymes. Or, en marketing, c'est deux concepts complètement séparés. Donc, la première originalité de mon travail, c'est de, en toute humilité, parce que c'est hyper compliqué, c'est de trouver les différences conceptuelles et théoriques entre proximité et attachement. Et en fait, on se rend compte que pour qu'il y ait une logique ou un lien entre proximité et attachement, il manque un maillon au chaînage conceptuel. Et en marketing, en tout cas, il semblerait que ce chaînon manquant, c'est la valeur perçue. C'est-à-dire qu'on peut être proche de quelque chose ou près de quelque chose, puisque la proximité, c'est à la fois être près d'eux et être proche d'eux. Mais pour être proche, il faut valoriser cette expérience vécue avec soit une autre personne, soit un objet, soit une marque. Si on reprend un peu les propos de Zola dans Germinal, je ne sais plus à quelle page, mais il parle de promiscuité, ce qui veut dire qu'on peut être près d'eux, mais qu'on ne valorise pas du tout la relation et que la proximité, la promiscuité, ce n'est pas du tout une proximité valorisée. Au contraire, on l'a subi. Si on reprend les travaux de London ou d'autres anthropologues anglo-saxons, même dans des romans, on se rend compte que les anthropologues peuvent être près d'un sujet, mais pas forcément proches de l'objet de recherche. Et en fait, on se rend compte qu'en marketing, ce chaînon manquant véritablement, c'est la valeur perçue. Et moi, dans mon cas particulier, c'est à la fois la valeur du stade et la valeur du club. Et si on arrive à bien lier ces trois concepts, on s'aperçoit qu'effectivement la proximité peut créer de la valeur pour le club, en tout cas pour le spectateur envers le club et envers le stade, et que tout ceci peut mener entre autres à l'attachement. Et ce qui est vraiment intéressant en marketing, c'est qu'il a été démontré que l'attachement est un pion essentiel qui mène à la satisfaction des consommateurs, et qui dit satisfaction répétée dit bien souvent fidélité. Et la fidélité en marketing, c'est vraiment le Graal, parce que ça mène à la répétition des achats et ça mène également au bouche à oreille positif.
Alors comment vous allez procéder pour faire ce travail?
Alors là, j'ai eu beaucoup de chance ou beaucoup d'opportunisme. Donc j'ai un cas, je travaille particulièrement sur le Racing 92 et j'ai eu de la chance d'avoir des salariés du club. Hein. Je pense notamment à Johan Damous, qui est le responsable billetterie et marketing. Johan m'a ouvert les portes, ou en tout cas m'a ouvert toutes ces données sans que j'y ai accès personnellement. J'ai refusé d'avoir accès à ces bases de données. En revanche, on travaille main dans la main, ce qui fait qu'on a, premièrement, il y a quelques années, donc on devait être en 2016 je crois, on a envoyé un premier questionnaire à toute sa base de données. Alors attention, hein, ça a beau être une super marque de rugby, la base de données à l'époque, je crois, c'était 16 000 personnes, puisqu'ils étaient encore à Colombes. Donc on a envoyé un email à 16 000 personnes et on a eu un retour de questionnaire de 1 500 personnes, ce qui est plutôt très bon, puisque généralement on part plutôt sur du 3%. Là on a 1 500 questionnaires, dont 1 429 qui étaient exploitables, pour plein de raisons. Hein. Mais c'est plutôt très bon parce qu'encore une fois, on parle à des spectateurs et il y a un attachement et on était vraiment à la veille du changement de stade. Donc voilà, il y avait un sujet d'actualité. Deuxième raison également, c'est qu'on a ce qu'on appelle incentiver le questionnaire, c'est-à-dire qu'il y a eu tirage au sort et une personne a gagné 2 places VIP pour un match, une personne a gagné un maillot dédicacé. Bref, il y avait une petite carotte pour que les gens répondent. Et en fait, une autre originalité, mais cette fois méthodologique de mon travail, c'est que l'étude se fait avant-après. Elle n'est pas longitudinale, c'est-à-dire je ne suis pas 5 ou 6 supporters avant le déménagement, pendant le déménagement et après le déménagement. J'ai mené 2 enquêtes, une avant le déménagement et une à l'emménagement dans la nouvelle aréna à Paris La Défense. Et donc là, on a renvoyé un questionnaire à la base de données, mais également un questionnaire aux 1429 personnes qui avaient répondu à la première et qui étaient exploitables. Avec la nouvelle base de données, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un échantillon de contrôle, donc qui permet de voir si les résultats valent quelque chose ou s'il y a vraiment une spécificité aux 1429 initiaux. Et parmi les 1429, certains n'ont pas répondu. De 1429, on est retombé à 1159, mais sur les 1159, j'ai choisi un panel, donc ce qu'on appelle un panel, c'est-à-dire un échantillon représentatif de ces 1159, de 388 ou 89, j'ai plus en tête, personnes sur lesquelles je fonde mon panel. Donc on avait vraiment une démarche quantitative, donc avec premièrement une première étape sur le logiciel SPSS qui me permet de vérifier que mes échelles de mesure tiennent la route. Et deuxièmement, je passe sur un autre logiciel, Amos, pour mener des équations structurelles qui me permettent de mettre en lien les 3 concepts et de voir le chaînage conceptuel entre les 3 concepts et vérifier si mes hypothèses tiennent la route et si c'est le cas, dans quelle mesure chaque dimension de chaque concept peut avoir un impact sur les autres.
Voilà, donc là il y a une donnée aussi qui est importante dans votre travail, c'est le temps.
Oui.
Parce que, c'est aléatoire, le temps que les gens vont mettre à répondre au questionnaire, vous ne pouvez pas tout à fait le mesurer. Après, vous avez besoin aussi, je suppose, d'un temps certain pour analyser les données,
ouais.
Et ensuite d'un temps encore pour les réfléchir, pour en parler. Donc, est-ce que vous voulez nous dire un mot sur ces 3 échelles de temps ?
Même 4, puisqu'il s'agit d'un déménagement, donc il a fallu construire un nouveau stade, et le stade a été livré avec 1 an de retard. Donc je vais pas dire que j'ai perdu 1 an de thèse parce que j'ai fait d'autres choses pendant ce temps-là, mais ça, la seule chose que je peux dire sur les échelles de temps, c'est que c'est une source de stress inimaginable, notamment par rapport au délai des travaux, puisque à un moment donné on se pose la même question, est-ce que le déménagement aura vraiment lieu et est-ce que je vais pouvoir mener ma thèse à terme. À la base, quand je réfléchissais à mon projet de thèse, donc en 2012, avant même de m'inscrire en doctorat, j'avais des contacts avancés avec Dunkerque, qui devait monter une aréna à Dunkerque. Mais le projet a été abandonné. La chance que j'ai eue, c'est malgré leur accord, c'est que l'abandon a eu lieu avant l'inscription. Donc je savais au moins que j'allais pas m'embarquer avec eux. Mais c'est la thèse en elle-même, je pense que je suis pas le premier à vous le dire, c'est une source de stress inimaginable. C'est un gros poids sur la vie personnelle, la vie professionnelle, sur la vie de famille. Et je salue Katia, ma compagne, et mes 3 enfants. Mais en termes d'échelle de temps, oui, c'est... le retard du stade a posé de gros problèmes. Ensuite, je me plains pas trop par rapport à l'administration du questionnaire, puisque les 2 questionnaires ont été soumis sur 1 mois. J'avais en tête déjà une deadline. Les répondants n'auraient eu qu'un mois. Et on se rend compte, j'en parlais encore avec une collègue il y a pas longtemps, on se rend compte que quand vous envoyez le questionnaire, vous avez les 48 ou 72 premières heures où il y a une grosse affluence, puis ça retombe. Vous lancez une relance entre les 10e et 15e jours, et puis vous laissez couler, on a une pente douce qui est assez désespérante, mais ça sert à rien de laisser le questionnaire courir plus d'un mois. En revanche, on a des petits plaisirs, c'est-à-dire quand vous atteignez la première centaine, là vous êtes dans votre bureau avec d'autres doctorants ou avec d'autres enseignants-chercheurs, et vous criez de joie, style Archimède et son Eureka. C'est les petits plaisirs du doctorant, ce que personne ne comprend véritablement. Et puis vous atteignez le premier millier, etc., etc. Mais il y a toujours un peu de stress de ce côté-là. Après, pour l'analyse, à la base, je suis pas du tout un quantitativiste. Je comprends pas toujours ce que je fais, pour être honnête. Toujours est-il que je prends un certain plaisir à avoir les mains dans le cambouis et à triturer, dépatouiller un petit peu les différents concepts et les différentes statistiques. Et ensuite, pour l'analyse, faut pas sous-estimer le temps de sommeil. On se rend compte que la thèse, l'art de rien, se travaille également quand on dort. Et en fait, il y a beaucoup de travail pendant le sommeil. On se réveille souvent le matin avec des idées fraîches et même un nouvel angle d'approche auquel on n'aurait pas pensé si on était resté réveillé. Donc, beaucoup d'anciens doctorants me disent qu'on ne dort pas beaucoup en dernière année de thèse. J'ai pas trop ce problème. Alors, ceci étant, la thèse n'est pas finie. Mais en tout cas, je valorise beaucoup la recherche subliminale, j'ai envie de dire. Vous qui êtes de formation médicale, vous allez pouvoir m'aider là-dessus. Mais...
Paramédicale, attention. Paramédicale, oui. Je pense qu'il y a encore des petites guerres de chapelle là, dans le domaine. Donc attention à ne pas se donner des compétences qu'on n'a pas. Je me tourne vers Philippe. Quelle question tu voudrais poser à notre invité? Parce que regarde, leur fil. Donc,
leur fil. Moi, ce serait plus... votre thèse, elle n'est toujours pas terminée. Donc, partant de là, je ne pense pas que vous pouvez donner vraiment de... plus ou moins une direction, mais ça serait intéressant de savoir, est-ce que la tranche d'âge, on va dire, des jeunes, on va dire jusqu'à entre les 15-30 ans, on va dire, est-ce que le déménagement, ça les a plus motivés par rapport peut-être à un stade qui était, bon, certes historique, mais qui était peut-être un petit peu, un peu à l'ancienne, c'est un peu le territoire des parents, des grands-parents. Et peut-être que pour les jeunes, la nouvelle aréna qui est ultra moderne, c'est une salle de concert, enfin un peu tout. Est-ce que c'est peut-être ça leur parle plus à eux, quoi?
Ouais, alors il y a des limites à la thèse. Alors effectivement, j'ai pas encore les résultats finaux, mais j'ai quand même pas mal de résultats intermédiaires. Il y a des limites quand même. Alors une limite qui est inhérente au cas, c'est la représentativité des jeunes. Puisqu'effectivement, j'ai pris un échantillon représentatif des spectateurs du Racing, et très clairement, à la base, notamment quand on était à Colombes, on avait plutôt une population vieillissante.
Oui.
On se rapprochait un peu des spectateurs de la Vallée du Cher à l'époque du Tour FC. Ceci étant, on rejoint, et vous l'avez senti, les résultats qu'on trouve dans les travaux sur l'attachement de manière générale, donc qui répondent à l'obédience de Bowlby dans les années post-Deuxième Guerre mondiale en psychologie américaine. C'est-à-dire que l'attachement croît avec l'âge. Et effectivement, si on rejoint d'autres travaux en marketing, on a tendance à idéaliser certains objets d'affection, notamment lorsque ceux-ci ont été perdus. Hein. Il y a même Janet Jackson qu'on a fait une chanson. Hein. On ne sait pas ce qu'on a perdu tant qu'on ne l'a pas perdu. Donc quelque part, ouais, très clairement, on a plus de sentiments d'attachement et on a plus de sentiments de perte, comme dirait Bowlby, chez les supporters de longue durée, notamment ceux qui sont âgés, que chez les jeunes. Autre limite inhérente, en l'occurrence, c'est que au-delà de ne pas avoir beaucoup de supporters jeunes à la base, les supporters jeunes du Racing ne sont pas des supporters, ce sont des spectateurs. Mais là, d'un point de vue managérial, c'est très intéressant, c'est qu'ils remplissent notamment la tribune étudiante.
D'accord.
C'est-à-dire une tribune, j'ai oublié le nom d'ailleurs... honte à moi, mais un quart de virage dans l'aréna où tout a de l'importance sauf le match.
Oui, d'accord.
Très clairement. Y a des DJ, il y a des hôtes et des hôtesses, il y a des goodies, y a des tables de beer pong dans les travées, il y a tout sauf du rugby. Une anecdote, c'est que moi j'ai fait l'inauguration de l'aréna, donc ça devait être en décembre, il y a 2 ans, contre le Stade Toulousain, c'était un 21 décembre. J'ai amené deux copains, Simon et Louis, étudiants. Simon, qui a pourtant une formation STAPS, à la mi-temps m'a demandé quand est-ce que le match commençait.
Ah oui, d'accord.
Donc on a bu des bières, on a bien rigolé, mais il a complètement zappé la première mi-temps. Parce qu'il regardait les hôtesses, il regardait les autres étudiants, il regardait le DJ, il chantait, il a gagné un t-shirt Fun Radio, c'était formidable. Mais il a complètement loupé 40 minutes de spectacle sportif.
Ah oui, d'accord. Donc là on est plus dans du sport consommable. Des spectateurs qui vont venir, parce que c'est un peu la sortie,
On est dans le sportainment, et en fait, la question, mais ça pourrait être une question à plus long terme, quel est l'objet d'attachement des étudiants à un club aujourd'hui? Et moi, je me souviens, quand je travaillais aux Sharks, on avait conclu un partenariat avec l'Université de Manchester. Ouais. On a frété des bus gratuits pour amener les étudiants dans le stade, et on leur offrait la première bière gratuite. Donc, c'est-à-dire, ils avaient à se soucier de rien, et le billet était au tarif étudiant de 5 pounds, à peu près 6 euros. Ça a fait un bide monumental. Et quand on a demandé aux étudiants, bah en fait, ils sont dans la spontanéité. C'est-à-dire que s'il y a un film qui sort ce soir-là, il va voir le film. S'il a rencontré une demoiselle la veille, il va avec la demoiselle. On est dans la spontanéité. Là, très clairement, les contrats qui se font entre les clubs et les étudiants se font par les BDE, les BDS et compagnie. Donc finalement, est-ce que l'attachement est par rapport à l'aréna? Est-ce qu'il est par rapport au Racing? On peut se poser la question. Et est-ce qu'il n'est pas plutôt par rapport au BDE, BDS, voire même à l'école de commerce ou à l'université à laquelle il appartient? Et ça, c'est un vrai sujet et ça peut avoir une vraie portée managériale parce que les clubs qui s'évertuent tant bien que mal à s'adresser à une population étudiante pourraient peut-être avoir une ébauche de réponse. Et il y a des clubs qui font les choses très bien, donc le Racing, effectivement, mais il me semble que l'UBB a aussi une travée étudiante et il me semble que le TAT Toulousain a un vrai quart de virage étudiant. Donc on commence à adresser les vraies questions.
D'accord, c'est vraiment donc plus basé sur, comme vous avez dit, c'est j'ai envie de sortir, voir un match de rugby, je vais y aller, mais peut-être que la semaine prochaine, j'ai pas envie d'y aller.
Et surtout, je vais y aller si mes potes y vont.
Oui, voilà.
D'accord. Ouais, clairement. C'est le côté cool, quoi.
Bah, c'est le côté préchauffe. Ouais. C'est-à-dire, on va avoir le match de 20h à 22h, on va se mettre plein la panse pendant 2h, et puis on ira en boîte ou ailleurs après le match. Mais il n'y a rien de mal à ça, je veux dire, il faut juste que les clubs professionnels français aujourd'hui... adresse la question et surtout certains ont commencé à le faire mais surtout commencent à appréhender la question de l'hypersegmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a X segments de population, X cibles et donc X motivations à adresser et auxquelles il va falloir répondre. Quels sont les désirs de chaque population? Je me souviens à une époque au Tour FC on avait cette question. Un abonné avait voulu changer de place et il voulait être plus central. Le responsable billetterie a répondu à son désir, à son attente, à son besoin. Il a changé de place. Le problème, c'est qu'au bout de 2 matchs, il a demandé à rechanger de place. Le responsable billetterie lui a dit « Mais je comprends pas, j'ai répondu à vos attentes. » Il a dit « Oui, mais je savais pas qu'il y avait le mec qui jouait de la batterie pendant 90 minutes à côté de moi. » Bon, mais très clairement, le mec qui a la batterie, il a des besoins et des attentes complètement différentes de cet abonné qui est peut-être plus un esthète ou plus un connaisseur qui, lui, veut regarder le match en toute tranquillité. Donc, on arrive vraiment à cette question d'hypersegmentation et quelque part de différentes travées, de quarts de virage différents pour chaque population véritablement.
Eh bien, merci Jérôme Boissel d'être venu dans cette méridienne pour nous parler de votre travail de recherche, l'évolution de la perception que les spectateurs de matchs de rugby à 15 ont de la proximité, de la valeur et de l'attachement, c'est ça, lorsque leur club change de stade. Voilà, travail doctoral qui porte sur le...
Le Racing 92, merci ouais. Mélissa, merci Philippe.
Oui. Merci.
Merci Philippe, on le rappelle, animateur de l'émission de sport, on se porte pas plus mal, c'est quand votre prochaine émission?
C'est lundi prochain, avec un spécial quiz pendant 1 heure, normalement.
Alors, chers
donc auditeurs, autant dire, ça va être la fête quoi.
Et alors on va se quitter, on va faire plaisir à Scarlett, n'est-ce pas? On va écouter Shakira.
Et à Rose et à Jude, ouais.
Et à Rose et à Jude, voilà. Bonne fête à tous, voilà, et on se quitte en écoutant Shakira. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh-oh. And if you fall, get up, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh. Waka, waka, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a freedom, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pay for leaving. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. I know.
Africa.
I'm real, I'm a journey,